Il est 7h à Kikwit dans le Kouilou et même heure à Kinshasa. C'est l'heure du journal. À la présentation, Blaise Shindani Kambala.
Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Lors de sa visite au camp de Mobambir au Nord Kivu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir les efforts visant à réduire les menaces posées par les groupes armés et à protéger les civils. À Bunia, la prolifération des officines pharmaceutiques s'observe à presque tous les coins de rue, souvent en violation des normes en vigueur. Au centre-ville, entre 5 et 10 officines peuvent se retrouver sur une distance de 100 mètres, notamment au rond-point Pique-Nique et de Martyrs. L'inspecteur à la division provinciale de la santé tire la sonnette d'alarme. L'invité de ce journal est le chef de la division provinciale de la santé du Congo central où il y a plusieurs sectes religieuses. Certains parents hésitent de faire vacciner leurs enfants. Alors, quelles sont les mesures prises pour convaincre ces parents à faire vacciner leurs enfants? Docteur Nestor Tshitekou répond dans cet entretien avec Élise Kavira. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal parler dominical sur la radio de la paix. Au Nord Kivu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir les efforts visant à réduire les menaces posées par les groupes armés et à protéger les civils. James Swan s'exprimait ce samedi à l'issue de sa visite au camp des transits de la section désarmement, démobilisation, réintégration et stabilisation DDRS de la MONUSCO située à Mubambiro, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, en territoire de Masisi. Le site accueille une dizaine d'anciens combattants des FDLR qui se sont rendus à la MONUSCO et attendre leur rapatriement vers le Rwanda. Pour le chef de la mission onusienne, chaque ex-combattant qui renonce à la lutte armée représente une menace de moins et un pas de plus vers la paix dans l'est de la RDC. Écoutons ses propos.
En effet, le dossier FDLR reste une priorité pour la MONUSCO, pour la communauté internationale. C'est souligné dans les résolutions du Conseil de sécurité. On peut pas oublier l'importance de ce dossier FDLR. Et je remercie encore une fois nos collègues, les partenaires congolais qui continuent à travailler pour que on réalise les objectifs de trouver des solutions pour les FDLR. Le message qui ressort de Mubambiro est très clair. Chaque ex-combattant qui renonce à la lutte armée représente un pas de plus loin de la violence. Et chaque communauté qui reçoit un soutien concret représente un pas de plus vers la paix. La MONUSCO continuera d'appuyer les efforts visant à réduire la menace posée par les groupes armés, à protéger les civils et à créer les conditions d'un avenir plus stable et plus pacifique dans l'est de la RDC.
Rappelons que depuis avril 2025 jusqu'à ces jours, la section DDRS de la MONUSCO a déjà rapatrié au moins 575 ex-combattants des FDLR et leurs dépendants vers leur pays d'origine, le Rwanda. Dans la province de Lomami, pendant ces temps, un différent foncier dans le groupement de Musenge ravive depuis plusieurs jours les tensions entre les grands chefs coutumiers de la chefferie Kanyok de Mulundu et l'administrateur du territoire de Lwilu. Au centre du litige, la reconnaissance de la localité forestière de Ndoka, revendiquée par la chefferie mais contestée par l'autorité territoriale. En attendant une médiation officielle, la petite forêt de Ndoka est devenue le théâtre d'affrontements répétés entre habitants des deux villages rivaux. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon plusieurs sources locales, les habitants de Benandoka réclament depuis des années la reconnaissance officielle de cette localité en pleine émergence. Le grand chef coutumier Fidao Binene Binene soutient que le village Ndoka Doka existe depuis de nombreuses années et fait partie intégrante de la chefferie.
L'administrateur des territoires me connaît la décision du 24 avril 2002 du feu grand chef Kamouz. Il reconnaît l'existence du village Ndoka avant 1935. C'est pour cela la chefferie de Kanyoko de Moulunda, à travers son grand chef, vient dénoncer cette décision qui empiète les prérogatives coutumières et risque de créer davantage de tensions au lieu d'apporter une solution durable.
Cette version est fermement rejetée par l'administrateur du territoire de Lui-Lou. Celui-ci affirme que les investigations menées par le Conseil de sécurité territoriale n'ont révélé aucun document légal attestant la création ou l'existence administrative du village de Ndoka. Il met en garde contre une implication accrue de la chefferie, estimant qu'elle pourrait exacerber les tensions et déboucher sur des violences. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Par contre, ici à Kinshasa, un retour au calme s'observe dans plusieurs quartiers de la commune d'Ntsele, notamment à Muntele et Sikota Lokali, autour de l'hôpital général de référence de Kinkole, où sont logés les sinistrés de Pakajuma. La situation sécuritaire s'améliore après des violences enregistrées la semaine dernière. Moins de mouvements suspects, une baisse des cas de vol, de viol et d'extorsion. La présence des forces de sécurité commence à produire des effets visibles. Toutefois, malgré cette accalmie, les habitants restent sur leur garde, redoutant une éventuelle résurgence de l'insécurité. Adolphe Kayembe, président de l'ONG Dynamique pour la relance du développement, appelle au maintien des militaires et au renforcement des dispositifs sécuritaires pour consolider ce retour au calme. Écoutons Adolphe Kayembe au micro de Christian Makasinga.
Mais depuis l'arrivée de ces militaires, aucun mouvement de ces sinistrés n'est signalé dans les quartiers. Parce qu'on n'observe plus les vagabondages de ces sinistrés dans les quartiers qui sont autour de ces sites qui les abritent à l'hôpital général de référence de Kinkole. On n'enregistre plus les mouvements de vols, de viols, d'extorsion comme c'était avant les événements malheureux qui étaient survenus la semaine dernière. Il y a beaucoup de quartiers qui sont autour de ces sites et dans tous ces quartiers, il y avait une recrudescence d'insécurité. Il y avait les vols à main armée, il y avait les viols, il y avait l'extorsion. Nous proposons plusieurs choses, parmi lesquelles la présence permanente des militaires pour encadrer ces sinistrés dans leur site. Et la multiplication aussi des sociétés, beaucoup de policiers, beaucoup de matériel de travail. Si on peut aussi ouvrir l'avenue Kakenza. Donc si ces mesures sont prises, le quartier peut quand même vivre en insécurité parce que malgré ce calme après cœur, la population ne dort pas. Elle est toujours en alerte parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ce mouvement d'insécurité peut encore surgir.
À Bounia, la prolifération des officines pharmaceutiques s'observe à presque tous les coins de rue, souvent en violation des normes en vigueur. Plusieurs vendeurs ne disposent ni des diplômes, ni des formations dans le domaine de la santé. Conséquence, la santé des habitants est de plus en plus exposée dans cette ville qui compte près de 2 millions d'habitants. Reportage de Laetitia Viakounou.
Dans presque chaque avenue de la ville de Bounia, une pharmacie est installée où les médicaments se vendent comme des simples marchandises. Au centre-ville, entre 5 et 10 officines peuvent se retrouver sur une distance de 100 mètres, notamment au rond-point Putnik et de Martyr. La plupart des vendeurs n'ont aucune formation dans le domaine de la santé pour orienter correctement le malade. Une situation qui constitue un véritable danger dans un contexte où de nombreux habitants recourent à l'automédication sans prescription médicale. David Poutou, inspecteur à la division provinciale de la santé, tire la sonnette d'alarme.
Problème de réglementation, comme vous pouvez voir, il y a combien de personnes qui n'ont jamais été, même pas à l'école d'infirmière.
Cette situation n'est pas sans conséquences. Elle expose la population à des risques sanitaires importants, administration des traitements inappropriés, surdosage pouvant aggraver les maladies, voire entraîner la mort des patients.
Lorsqu'un patient se présente, après avoir exprimé sa plainte, soit vous ne disposez pas des médicaments appropriés, soit vous lui administrez des traitements qui ne correspondent pas à sa maladie.
Face à cette situation, les professionnels de la santé appellent les services compétents à réglementer strictement ce secteur afin de protéger la population. Bounia, Laetitia Viakounou, Radio Okapi.
Restons dans la même ville où les casques bleus de la MONUSCO ont procédé à la plantation de 200 arbres ce week-end dans l'enceinte de l'hôpital général de référence. Une activité organisée en marge de la journée internationale de la terre nourricière célébrée le 22 avril. Objectif, améliorer améliorer l'environnement des malades et sensibiliser la population à la lutte contre les changements climatiques, selon la mission onusienne. Une initiative saluée par les autorités sanitaires. David Mugisa.
Au total, 10 plants de jonquier, un arbre fruitier reconnu pour sa durabilité et symbole du patrimoine national du Bangladesh, ont été plantés dans la l'enceinte de l'hôpital général de référence de Bounia. Selon la MONUSCO, cette action vise à améliorer le cadre environnemental de cette structure sanitaire pour le bien-être des patients, tout en sensibilisant la population à la plantation d'arbres dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. L'initiative s'inscrit également dans les renforcements de la coopération civile ou militaire, notamment dans le cadre de la protection des civils. Du côté des autorités sanitaires, ces arbres offriront à terme des espaces de repos favorables à la santé des malades, Lodjo Kisembo, cadre de l'hôpital.
Ça va nous aider à mettre le climat de l'hôpital. On avait des arbres déjà vieillis. Vous voyez que ce sont des arbres qui donnent beaucoup de l'ombrage et c'est ça dont l'hôpital en a besoin.
Pour de riverains, cette action encourage la population à planter davantage d'arbres et à s'impliquer dans la protection de l'environnement. Rachel Sikomo-Kavira, coordonnatrice de l'association Femmes et Afon.
D'arbres, nous aurons quand même un peu de climat qui seront favorables pour notre santé.
Rappelons que la journée internationale de la terre nourricière a été instituée par les Nations Unies pour encourager les actions responsables en faveur de la protection de l'environnement et d'un avenir durable pour les générations futures.
Chaque 25 avril, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, le thème retenu est « Déterminé à éliminer le paludisme, maintenant que nous le pouvons, c'est notre devoir d'y parvenir ». L'Organisation mondiale de la santé fait le point sur une maladie toujours meurtrière. À ce jour, 610 000 décès ont été enregistrés. Malgré les progrès, 37 pays ont signalé moins de 1000 cas et 47 ont été certifiés exemptés de paludisme. En République démocratique du Congo, l'un des pays les plus touchés, la lutte reste un défi majeur. Entre automédication, insalubrité et eau stagnante, plusieurs facteurs favorisent la persistance de la maladie. Joël Boto, expert en environnement, analyse l'impact de l'insalubrité urbaine et des eaux stagnantes. Il est au micro de Christian Makasinga.
Nous devons d'abord savoir que le paludisme n'est pas seulement un problème de la santé, mais c'est aussi un problème qui est lié à l'environnement et à l'aménagement du territoire. L'environnement de la RDC n'est pas vraiment bien assaini, tout comme notre plan d'aménagement du territoire, l'aménagement urbain. Nous constatons quoi dans la ville de Kinshasa particulièrement? La prolifération de moustiques qui est favorisée par les eaux stagnantes. Partout dans la ville, nous trouvons des flaques d'eau, nous trouvons des eaux stagnantes, nous trouvons des caniveaux bouchés, le salubrité, que ce soit dans les marchés publics, que ce soit dans nos ménages, que ce soit dans nos riz, que ce soit partout où nous sommes. Et l'urbanisation non planifiée. Tant que notre environnement reste mal assaini, le paludisme continuera à circuler. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le paludisme que nous le pouvons, c'est d'abord d'assainir notre environnement, d'assainir notre milieu de vie. Nous devons vraiment mettre l'accent parce qu'il y a des pays qui ont éradiqué le paludisme. Et on ne peut pas éradiquer le paludisme seulement avec le moyen clinique.
Ce journal se poursuit au Nord Kivu où l'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes est désormais officielle. Le lancement de cette opération a eu lieu ce vendredi dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province. Organisée par le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, cette initiative vise à identifier, encadrer et évaluer les compétences des sages-femmes en activité dans un contexte marqué par un taux encore élevé de mortalité maternelle et néonatale. Marc Marofimbo pour des précisions.
Une certaine des sages-femmes ont pris part à cette première phase d'identification et description. Pour Hélène Kavour, vice-présidente de l'Ordre des sages-femmes au Nord Kivu, cette démarche arrive au point nommé et constitue un pas important vers l'amélioration de la qualité des soins.
C'est très bénéfique pour avoir l'ordre. Ça nous a beaucoup rassurés pour la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale dans notre province du Nord Kivu. Comme nous avons un taux trop élevé, avec l'inscription au tableau de l'ordre, il serait des sages-femmes capacitées et puis les sages-femmes dynamiques inscrites au tableau de l'ordre.
De son côté, Ambroche Kabea, président national du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, rappelle que l'inscription au tableau de l'ordre est une obligation légale pour toute professionnelle souhaitant exercer ce métier en République démocratique du Congo.
C'est un domaine très sensible. Vous savez, aujourd'hui, la RDC connaît un taux de mortalité très élevé des femmes et des nouveau-nés. Alors, pour réguler ce domaine-là, afin de protéger le public, il est appelé à toute sage-femme qu'il n'a pas une autre voie que de venir vers l'ordre et s'inscrire, parce que c'est une obligation.
Il convient de signaler que les candidates sages-femmes seront soumises à des tests théoriques et pratiques. Une session de renforcement des capacités de 3 jours est également prévue avant leur inscription officielle au tableau de l'ordre des sages-femmes. Beni Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Interdiction aux mineurs et aux femmes enceintes de circuler sur des motos à Kinshasa. Ceci découle de l'édit portant réglementation du transport par taxi-moto voté hier par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Des précisions avec vous et la Chembalo.
L'édit introduit des interdictions visant certaines catégories d'usagers, ce notamment les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes au dernier trimestre, les personnes en état d'ivresse, les personnes âgées non accompagnées. Le texte, initié par le député provincial Nicolas Wemankoy, a été adopté à l'unanimité. Le conducteur des taxis-motos, communément appelé Wewa, assure la mobilité quotidienne de nombreux Kinois. Cependant, ils sont accusés d'être à la base de cas d'accidents. Selon les textes adoptés par les élus provinciaux, les motards effreignent ces dispositions, s'exposent à des sanctions, dont des amendes et la mise en fourrière de leurs engins. Le législateur a prévu une période de sensibilisation des motards avant l'application des sanctions préconisées. Par ailleurs, ce texte attend sa promulgation par le gouverneur de Kinshasa avant son entrée en vigueur.
Actualité internationale.
La santé de Benjamin Netanyahou est au cœur d'une vive polémique en Israël. Le premier ministre a révélé avoir été opéré dans les plus grands secrets d'un cancer de la prostate il y a 2 mois. Un diagnostic caché aux citoyens pour des raisons de sécurité nationale, selon l'intéressé, mais qui suscite aujourd'hui des sérieuses questions sur la transparence au sommet de l'État.
L'invité.
Notre invité dans ce journal est le chef de la division provinciale de la santé au Congo central où il y a plusieurs sectes religieuses. Certains parents ont la réticence de faire vacciner leurs enfants. Quelles sont les mesures prises pour convaincre ces parents à faire vacciner leurs enfants? Docteur Nestor Chitekou donne les explications. Il s'entretient avec Élise Kavira.
Monsieur Nestor Chitekou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef des divisions provinciales de la santé du Congo central. Là, nous venons de commencer la semaine mondiale de la vaccination et elle coïncide avec la campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite en cours dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Dites-nous comment ça se passe dans les 31 zones de santé qui sont sous votre direction.
La campagne se passe très bien. Il y a près de 3 zones de santé qui nous pose des problèmes. La zone de santé de Kivula, la zone de santé de Kimpangu, mais il faut aussi parler de la zone de santé de Bomabungo, qui a des îlots, et que pour accéder à ces îlots, ça pose des petits soucis. Il faut peut-être louer des hors-bord pour avoir accès à ces populations riveraines.
Pour le reste des zones où les équipes sont déjà déployées sur les terrains et travaillent déjà, est-ce qu'il y a des difficultés signalées jusque-là?
Comme vous le savez, cette campagne utilise la stratégie fixe et fixe avancée. Donc ça veut dire qu'on doit installer les équipes de vaccination au niveau des centres de santé, au niveau des carrefours et des écoles. Mais nous avons mis plus de l'accent sur les écoles, étant donné que la cible qui doit bénéficier de ces vaccins, ce sont beaucoup plus les élèves et les écoliers. Donc, nous avons pour la poliomyélite, ce sont les enfants de 0 à 5 à 9 mois. Vous allez comprendre qu'il y a déjà une tranche d'âge qui est à l'école maternelle. Et pour la rubéole et rougeole, ce sont les enfants de 6 mois à 14 ans. Donc, vous comprenez que tous ces enfants, nous pouvons plus les retrouver que dans des écoles. On a connu des petits soucis, beaucoup plus dans la ville de Boma, mais cette situation a été vite réglée. Et pour le moment, nos équipes passent facilement et s'installent dans des écoles pour vacciner tous ces enfants.
La province du Congo central est connue pour avoir plusieurs, je ne sais pas si on doit appeler confessions religieuses, notamment celle dite Église de Noir. Et généralement, il y a une certaine méfiance pour tout ce qui vient de l'Occident à ce niveau-là. Est-ce que tous les parents, malgré les différentes confessions religieuses, arrivent à comprendre l'importance du vaccin pour leurs enfants ou il y a quand même une certaine résistance?
Merci beaucoup, madame. C'est une très bonne question. Je crois que ce sont les difficultés que nous avons souvent, beaucoup plus avec les églises des Noirs. Mais nous avons analysé la question, comment nous pouvons arriver à contourner, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place. C'est ainsi que nous avions eu à intégrer les responsables de ces églises qui font partie même de superviseurs, vaccinateurs, mobilisateurs. C'est eux-mêmes qui amènent leurs propres enfants pour être vaccinés. Et ça donne déjà l'exemple aux autres croyants des églises des Noirs qui peuvent facilement adhérer à la vaccination.
Pensez-vous que d'ici la date fixée pour la fin, le nombre d'enfants sera atteint ou vous prévoyez déjà une période de rattrapage?
Merci beaucoup. Je crois qu'à chaque campagne, nous prévoyons toujours un ou deux jours de ratissage. Sûrement que nous pouvons aller jusque le mardi pour vacciner tous ces enfants.
Est-ce qu'il y a des cas enregistrés de rougeole, poliomyélite, rubéole ici dans la province?
Pour cette année jusque-là, nous n'avons pas encore enregistré les cas de poliomyélite, mais c'est plutôt les cas de rougeole. La province est en épidémie de rougeole depuis le mois de février. Il y a près de 5 ou 7 zones de santé qui sont touchées. S'il faut les ressortir, nous pouvons parler de la zone de santé de Tchela, Vakou, Kizu, Inga. Il faut aussi parler de la zone de santé de Matadi et Nzanza qui était déjà aussi en épidémie.
Par rapport déjà à la semaine mondiale de la vaccination, le thème de cette année, c'est pour chaque génération, les vaccins agissent. Est-ce que vous avez un message à lancer par rapport à cela et même pour cette campagne qui est en cours?
Merci beaucoup, madame. Effectivement, pour chaque génération, les vaccins agissent. Nous demandons aux parents de faire vacciner leurs enfants. C'est l'unique moyen de prévenir les maladies. C'est l'unique moyen que nous puissions manifester de l'amour envers nos enfants.
Monsieur Nestor Tshitekou, Radio Okapi vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, Dr Nestor Tshitekou, qui s'entretenait avec Élise Kavira. Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin, préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur notre site internet www.radiokapi.net.